c'est tellement une cause juste et logique, le développement durable, qu'il n'y a aucune raison de ne pas l'incarner et en être fier, quoi. Enfin, voilà, faut jamais hésiter, je trouve, à incarner ces valeurs quand elles sont positives.
Hello, c'est Maëlys. Je suis responsable de communauté aux Pépites Vertes. Je vous accueille aujourd'hui dans Au Cœur, un podcast imaginé suite à mes différentes rencontres avec les pépites de ce monde et les pépites en devenir. À leur contact, j'ai pu vivre l'importance de discuter ensemble du vécu de l'engagement et des émotions que l'on traverse lorsqu'on s'éloigne de la voie toute tracée. Dans Au Cœur, j'invite des jeunes qui ont fait le choix de l'engagement professionnel pour répondre à des émotions qu'ils prenaient aux tripes. Ces pépites nous racontent leur histoire et leurs questionnements, de la colère à l'émerveillement, du renoncement à l'engagement. Bonne écoute! Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Clément, engagé pour une mobilité plus durable. On y parle de l'importance d'incarner ses valeurs, de la fierté de l'engagement et du combat de la pensée positive. Salut Clément, comment vas-tu?
Ça va très bien et toi?
Ça va trop bien, je suis trop contente de te recevoir dans Au Cœur.
Merci beaucoup de me recevoir.
Pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais un peu te présenter, s'il te plaît?
Bien sûr. Clément, qui suis-je? Donc Clément, 25 ans, 26 en juin, et je travaille depuis maintenant un an et demi dans une société qui s'appelle Yego. On fait donc des scooters électriques partagés en libre service en France et en Espagne. Donc, mobilité partagée. Je suis responsable développement durable et affaires publiques.
Ça veut dire quoi d'être responsable développement durable et affaires publiques?
Alors, c'est particulier. En fait, c'est un poste hybride qu'on a créé pour moi quand j'ai postulé chez Yego. Parce que donc aujourd'hui, les villes qui font donc des appels d'offres pour avoir des nouvelles solutions de mobilité sur leur territoire, elles rédigent donc plein de conditions. Et dans ces conditions, il y a énormément de critères environnementaux et sociaux. Mais tous ces procédés, c'est des procédés très administratifs, donc type affaires publiques. Donc une double casquette affaires publiques et développement durable, ça nous paraissait le plus adapté à ce genre de procédé pour se déployer dans de plus en plus de villes en France et en Europe.
Ok, trop bien. On va revenir un peu plus tard sur un peu les enjeux de ton secteur et un peu plus sur ton travail. Mais avant cela, on va un peu remonter le temps et retourner voir Clément, qui est au début de ses réflexions sur l'engagement. Comment ça se passe pour toi?
Donc Clément, d'il y a 8 ans.
Ouais.
Alors, ça se passe bien. Ouais. Je dirais que le Clément du début des engagements environnementaux, c'était au lycée. En première, quand en cours d'économie, je découvre la notion de développement durable, la petite définition là, du rapport Brundtland, répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs, quelque chose comme ça.
C'est beau,
je me suis dit, waouh, c'est magnifique. Genre, est-ce que c'est vraiment possible la partie économie, environnement et social, hop, combiner les trois. Moi, ça me paraissait mais la formule magique de dingue. Et je me suis dit, bah, je vais me plonger là-dedans, quoi, étudier un peu. Du coup, j'ai fait un TPE là-dessus sur les Jeux Olympiques et le développement durable.
Trop bien.
Et petit à petit, c'est vraiment devenu mon centre d'intérêt premier, quoi. À chaque fois, je regardais un peu autour de moi comment les entreprises, surtout à l'époque, j'étais surtout orienté un peu entreprise, c'était un peu mon rapport à l'économie, c'était ça. Donc je regardais un peu qu'est-ce qui se passait, leurs engagements, c'était un peu le moment des tendances au bio, enfin c'était assez différent, c'était moins présent tous ces concepts. Et voilà, et après petit à petit ça m'a suivi en entrant à Sciences Po, dans mon master, et je suis resté raccroché à ça.
Et comment t'as vécu du coup un peu toutes ces révélations, on va dire, et cette grande découverte quand t'étais au lycée? Qu'est-ce que ça a changé concrètement pour toi? Est-ce qu'il y a eu des grands changements dans ta vie par rapport à ça? Comment ça s'est passé?
De base, ça a été un peu, je sais pas comment dire, surprenant, ouais. Parce que donc j'étais un des seuls dans ma classe qui s'intéressait à ce sujet. Par exemple, ce que je te disais du TPE, il n'y a personne d'autre qui avait fait un truc un peu orienté comme ça, environnement. Donc déjà d'être le seul à m'intéresser à ça, je me demandais un peu est-ce que je vais avoir des options intéressantes post-bac, quelque chose qui combinerait un peu mes intérêts, que ce soit dans le social, dans l'environnement, etc. Donc voilà, le début, ça a été un peu, est-ce que je continue quand même à m'y intéresser, à creuser, voilà. Et en fait, comme j'étais dans un environnement familial assez engagé, en termes notamment d'environnement, j'ai pas eu de remise en question directe. Bien sûr, si ça m'intéresse, je continue là-dedans. Et donc, j'ai continué.
Et du coup, ouais, tu m'avais aussi parlé effectivement du fait que tu avais un environnement déjà familial, comme tu l'as dit, qui peut être assez engagé et que du coup, tu avais déjà grandi avec pas mal des valeurs finalement qu'on retrouve dans ce secteur-là. Et donc, tu dis aussi, tu étais un peu le seul à t'y intéresser dans ta classe. Est-ce que ça a influencé du coup dans ton rapport aux autres ?
Dans mon rapport à mes proches, il y a eu tout un passage où j'étais le plus engagé. Donc, des trucs au départ qui sont aujourd'hui des trucs de base, mais qui à l'époque, tout le monde ne le faisait pas. Mais genre, avoir le tri, le compost à 100% un peu partout dans mes habitudes, à la maison et tout. Il n'y avait aucune chance que je ne fasse pas le tri, quoi. Et autour de moi, il y avait des gens qui ne le faisaient pas encore. Et à des moments, je me rappelle, j'allais chez eux, j'étais allé manger la pause déj, et je leur tapais un peu un scandale parce qu'ils jetaient leur pot de verre dans la poubelle normale, tu vois. Mais c'est juste que ça me semblait vraiment hallucinant à mes yeux. Et au début, on avait un peu des discussions, mais c'est compliqué, je sais pas quoi, moi j'ai pas envie de m'embêter, de me prendre la tête avec ces histoires. Et j'ai réalisé que petit à petit, ils réalisaient que ça coûtait rien de le faire, que c'était facile et que j'avais un peu de raison de les pousser, et j'en ai plusieurs qui sont venus me voir et pour eux c'était une grande victoire. Ils me présentaient ça comme t'as réussi à me changer, en mode je fais ça, j'achète plus de bouteilles d'eau en plastique et tout. Et moi j'étais bravo. Mais donc ouais, il y a eu un peu de travail dans mon rapport aux autres. Mais après, moi j'ai jamais aimé et voulu prendre ce rôle de moralisateur, j'ai toujours plus dit écoute, moi à la maison je fais ça et moi ça me semble naturel de faire ça et en vrai c'est pas compliqué et je te recommande ou je te dis c'est pas compliqué de le faire, plutôt que dire c'est horrible ce que tu fais, arrête, change tes habitudes demain. Non, c'est plus j'incite de manière subtile au changement.
Et tu peux pas pointer du doigt. T'es peut-être plus aussi dans l'incarnation, de dire je vais incarner ce en quoi je crois, et puis peut-être que ça va faire bouger les gens autour de moi. Est-ce qu'il y a de ça un peu ?
Oui, ouais, j'essaye d'être pas exemplaire, mais d'être proche de mes engagements et de montrer déjà à mes proches ce que je fais, et être sûr que à moi-même je ne vais pas me reprocher quelque chose dans quelques années de ne pas avoir été assez engagé ou quoi que ce soit. Et si ça permet de motiver d'autres personnes, tant mieux. Mais voilà, je préfère travailler sur moi, et si ça peut avoir de l'impact sur les autres, tant mieux.
Et c'est quoi un peu... Est-ce que tu saurais nommer les émotions quand même qu'il y avait derrière ça ? C'est-à-dire que même si tu ne veux pas être moralisateur par rapport aux autres, il n'empêche qu'il y avait quand même du coup une différence entre les autres qui n'agissent pas pour des choses qui toi te tiennent à cœur. Est-ce que ça générait quand même des émotions chez toi, cet décalage avec les personnes qui pouvaient t'entourer ?
Parfois, juste je ne comprenais pas trop pourquoi et qu'est-ce que ça coûte de plus de faire ces petits engagements. Mais jamais au point de remettre en question une amitié ou quelque chose. Enfin, parce qu'au fond, c'est marrant, mais parfois, il y a des personnes qui ont des valeurs humaines très, très hautes et exemplaires. Et à côté de ça, pas vraiment de conscience écologique. Et c'est super compliqué quand tu te retrouves face à une personne comme ça, parce que Bah en soi, tu sais, je sais pas, là, c'est un peu dur toujours d'avoir le bon ou le méchant, mais quand t'as l'impression d'avoir une personne qui est une bonne personne, on va dire, ça fait bizarre après de réaliser que la conscience environnementale globale n'est pas là. Ouais. Et pas, surtout quand on sait, enfin, aujourd'hui, les enjeux environnementaux en soi, l'enjeu environnemental est un enjeu social. Donc bon, ça fait... Ouais. Je sais pas, c'était un peu difficile au début.
Donc du coup, toi, tu disais, t'évolues par rapport à ça. Et finalement, tu m'avais parlé un peu des stages que t'avais réalisés. Donc tu choisis quand même plutôt un engagement professionnel, on va dire. Tu choisis de toutes ces connaissances que t'as, te dire, bon, bah moi, je vais aller m'engager sur ces enjeux-là au niveau du travail. Pourquoi tu choisis un engagement professionnel et pas un engagement associatif ou un autre, ou peut-être que t'en as plusieurs d'ailleurs, mais...
Donc en fait, après le lycée, j'ai fait mes études à Sciences Po et j'ai fait un master qui était assez orienté business et management. C'était en gros, ça se concentrait un peu sur l'économie, le management, voilà, les affaires privées. Et dans ce master-là, je me suis retrouvé avec plein de personnes qui étaient... ultra motivé par vraiment juste les aspects purement business, donc croissance permanente, profit permanent, etc. Et là, par contre, j'étais vraiment en inadéquation totale avec plein de personnes qui m'entouraient dans ce master. Et donc, au moment un peu où tout le monde cherchait des stages, pour notamment l'année de césure, j'ai eu aucun doute sur le fait que je voulais faire quelque chose dans une entreprise que je considérais responsable. Donc en fait, mes critères de sélection, ils ont immédiatement été pour chercher un stage. Et ça réduit beaucoup hein, le choix, notamment quand on est dans un master un peu corporate comme ça. J'ai candidaté que à des structures qui me semblaient, qui répondaient à mes critères, donc un peu écologiques et sociaux. Et voilà, je me suis pas posé de questions. J'ai su que dans ma vie professionnelle, quoi qu'il arrive, je voulais être content de ce que je faisais en me levant le matin et donc que mes convictions soient présentes dans mon job. Même si je tiens et je tiendrai toujours à avoir une vraie séparation hein, vie privée et vie pro, mais je préfère que ma vie pro soit en accord avec mes croyances perso.
Ouais. Et du coup, justement, par rapport à ce master avec des personnes très business, comme tu dis, et aussi des milieux où on nous parle beaucoup, des modèles où il y a ces modèles qui sont inculqués, ces modèles de réussite, avec des voies un peu toutes tracées qu'on nous incite à suivre. Quand toi, tu choisis finalement de faire ce genre de stage et de s'éloigner finalement de tous ces modèles qui t'entourent, comment toi, tu t'es sentie? Peut-être aussi par rapport aux autres, à tes camarades, est-ce que c'était une décision facile pour toi à prendre? Parce que oui, tu t'alignais avec tes valeurs, et ce qui est ultra, ça fait du bien, mais en même temps, tu t'éloignais de tout ton environnement direct. Comment tu l'as vécu, ça?
Eh bien, en fait, ça a été une décision plutôt facile. Ouais. Parce que, donc, quand j'ai commencé à faire ça et à raconter un peu... moi j'ai trouvé mon stage, donc notamment dans mon premier stage de césure, donc dans une entreprise de conseil en développement durable. Je commençais un peu à raconter ça aux personnes autour de moi. Et ils étaient tous dans cette sorte un peu d'admiration, de « oh bravo, enfin c'est bien », un peu ils me voyaient comme... le gars un peu engagé qui fait ça, qui sacrifie un peu par exemple les aspirations salariales pour ses valeurs, tu sais, un peu en mode ah mais c'est trop bien qu'il y ait des, c'était toujours ça, c'est trop bien qu'il y ait des gens qui fassent ça, tu vois, un peu en mode ouais voilà, en mode moi je le ferais pas, mais je suis content de savoir que tu fais ça, ça va trop te plaire, voilà. Ils étaient tous tout le monde était positif là-dedans. Et encourageant aussi, c'était en mode, il y en a beaucoup qui disaient « Ah, c'est vrai, c'est pas mal, j'aurais peut-être pu penser à faire ça » ou voilà, donc ils m'ont pas mal encouragé et donc je l'ai bien vécu cette période. Et en plus, comme le stage après m'a beaucoup plu, Pareil, dans mon retour en master, j'ai pu défendre un peu ma vision des choses et le fait que j'ai appris aussi plein de choses dans ce stage, ça m'a ultra formé professionnellement. Et peut-être plus que dans certains stages ou dans des grosses structures qui encadraient moins bien, par exemple, les stagiaires.
Ouais. Donc toi, finalement, tu t'y es retrouvé.
Ouais, complètement.
C'est bien, c'est que c'est un peu comme ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, en alignant... dès que tu alignes tes actions à tes valeurs, finalement, tu arrives plus peut-être à rayonner auprès des autres plutôt que de t'en éloigner plus. Et notamment, on avait également parlé un peu de la dynamique que tu peux avoir avec tes amis, et notamment des amis qui, peut-être à un moment, étaient moins engagés, qui finalement ont évolué. Est-ce que tu peux parler un peu de ça ?
Ouais, on a évolué un peu en même temps. En fait, il y a deux choses. Déjà, d'un côté, donc, à Sciences Po, ce qui est marrant, c'est que moi, donc, personnellement, j'ai évolué vers ce monde pro du monde du développement durable, mais en même temps, mon master lui-même a évolué. Donc Sciences Po a changé le master et ils ont même rebrandé, renommé le master. Donc avant, moi, quand je suis rentré, il s'appelait Economics et Business et maintenant, il s'appelle International Management and Sustainability. Et ils ont complètement fait ce switch et je me rappelle que donc, quand j'étais moi en cours, j'étais ravi du changement, parce que du coup, sur mon diplôme, on pouvait faire le choix, en fait, à la fin, de sur notre, comme on a eu un peu les deux formations, on pouvait faire le choix de qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on écrit sur notre diplôme, donc Economics and Business, ou International Management and Sustainability. Voilà. Et donc, moi, j'étais ravi, je me suis dit, bah, génial, c'est complètement en adéquation avec mes stages, avec les spécialités que j'avais choisies, donc je vais choisir ça. Et je me rappelle qu'il y a certaines personnes de mon master qui étaient dépitées, qui disaient, oh, mais si maintenant les gens cherchent ce master sur Internet, ils vont tomber sur Sustainability, c'est pas ce qu'on a étudié, je sais pas, ça, c'était un peu le scandale de ma promo, je me rappelle.
Ah oui.
Mais donc, d'un côté, il y a eu ce changement-là qui fait que, mine de rien, pareil, il y a plein de personnes du master qui étaient déjà ouvertes à tous ces sujets, qui sont aussi un peu ouverts l'esprit et qui ont changé un peu et adapté leurs valeurs et qui ont grandi en même temps. Donc voilà, côté études, déjà, il y a eu ce changement-là. Et ensuite, côté amis, j'ai l'impression que tous en même temps, on a un peu saisi l'importance des enjeux. Je dirais le moment de bascule, ça a été les Fridays for Future là de Greta.
De Greta.
Ouais.
Donc est-ce qu'on peut expliquer en deux mots ce que c'est les Fridays for Future de Greta que
tu... Oui. Elle faisait donc sa grève de l'école pour la cause climatique. Et on a repris ce mouvement-là en France en faisant pareil. Des vendredis type grève ou grève de l'école, quoi, grève de l'université.
Manifestation.
On n'allait pas en cours pour manifester. Ouais.
C'est ça.
Et donc on se retrouvait avec pas mal de gens en manifestation et il y a eu un peu cette réalisation de la part de plein de personnes de mon cercle proche. Et après, c'est allé en augmentant. Donc on est devenu de plus en plus alignés sur tous ces sujets-là. Et il y a même des personnes de mon cercle qui sont devenues encore plus engagées que je ne le suis moi maintenant, et en ayant commencé de plus loin.
Ouais. Bon, après, on pourrait définir ce que c'est l'engagement. Tu dis plus engagé, je pense qu'il y a différentes façons de s'engager quand
oui.
même.
Oui, ouais, ouais. Plus, plus activiste vers l'extérieur, vers l'influence des autres et peut-être plus aussi. Engagé dans les pratiques quotidiennes du style, je sais pas, devenir 100% végétarien, vegan, enfin passer chaque fois des étapes plus ou moins loin.
Mais c'est bien, c'est-à-dire qu'aussi ce genre de manifestations où on a l'impression qu'en fait c'est des manifestations que pour des personnes convaincues qui vont venir, mais en fait c'est des personnes qui savent déjà tout et qui font déjà bien et en fait elles viennent là pour porter un message, mais finalement. Le fait que ça a été un mouvement d'ampleur, je crois que c'était... Est-ce que c'était en 2019 où il y avait vraiment une énorme manifestation
Exactement, ouais.
de la part de la jeunesse c'était en mars aussi d'ailleurs, je crois, un vendredi. Il y avait une énorme manifestation de la part de la jeunesse. Et en fait, là, du coup, il y a plein de personnes qui sont mobilisées, peut-être des gens qui, en fait, finalement, s'étaient encore assez éloignés d'eux. Et ce genre d'événement a permis, et peut-être aussi de le vivre avec toi et de le vivre avec d'autres personnes engagées, ça a permis de faire un lien pour ces personnes et de faire évoluer leur pratique.
Complètement. Ça, j'en suis convaincu, parce qu'il y a toujours des personnes qui étaient un peu plus loin du sujet, mais qui, quand on entre dans ce genre de manif et qu'on voit autour de soi tellement de gens qui croient en la cause, qui se battent pour cette cause, ça motive et ça peut faire changer les esprits.
Ouais. Un apprentissage de ce rôle, c'est à quel point ça peut faire du bien d'être entouré de personnes qui sont, qui pensent comme ça, et enfin qui pensent d'une certaine façon, d'un endroit où on veut aller aussi, quoi. Qui sont voilà, engagés, ouais. À quel point ça peut faire du bien, se sentir moins seul dans tout ça.
Complètement. Et en fait, il y a cette, c'est tellement une cause juste et logique, l'environnement, le développement durable au sens large, donc social et environnemental, que il y a aucune raison de ne pas l'incarner et en être fier, quoi. Et généralement, les seules choses qu'on peut avoir en retour et qu'on devrait avoir en retour, c'est plus soit un peu de la reconnaissance pour les efforts qu'on fait de la part de notre entourage, ou parfois pour certains, carrément, qui n'iraient pas jusqu'à ce niveau-là d'engagement, des niveaux d'admiration. Enfin voilà, faut jamais hésiter, je trouve, à incarner ces valeurs quand elles sont positives.
Mais c'est cool ce que tu dis, notamment parce que je pense que la notion de fierté, c'est pas du tout une notion dont on parle beaucoup. Toi, là, tu pourrais dire que t'es fière et que c'est un beau truc d'être fière, finalement, pour justement un peu rayonner autour de soi.
Bah, complètement. Ouais, pour moi, complètement. Parce que je suis content de ce que je fais et je sais que c'est important de le faire et que c'est une bonne cause.
Ouais.
Donc voilà.
Bah, en vrai, c'est un peu. Moi, ce qui m'a tout de suite marqué chez toi, quand je t'ai rencontré maintenant il y a quelques mois, c'est aussi la joie de vivre que tu dégages, justement, ce truc de dire bah, en fait, c'est positif, je fais des choses cool, c'est cool. Et puis, je pense que tu es une personne assez positive. Tu as l'air d'être une personne assez positive dans la vie, je crois qu'on l'entend un peu dans ton parcours. Et à l'opposé de ça, dans notre secteur, on a l'impression qu'il y a d'autres émotions qui dominent. Plutôt des émotions parfois assez négatives qui sont tout à fait légitimes parce que c'est compliqué, parce que c'est dur, parce que c'est vraiment pas si simple que ça non plus. Mais on parle beaucoup de colère, on parle beaucoup de peur, on parle beaucoup d'anxiété. Comment toi tu te sens justement toi par rapport à tout ça? Quelle est ta vision des choses sur l'importance de la joie et des émotions positives dans l'engagement?
Je pense que comme tu le soulignais de manière... naturel, donc hors engagement écologique, je suis assez joyeux dans la vie. Donc forcément, je le transpose dans mon engagement environnemental. Et pour moi, c'est super important. Je laisse pas vraiment la place à trop d'anxiété et de un peu sentiment, parfois il y a beaucoup de sentiments de c'est déjà trop tard, ou d'abandon. Ça vient beaucoup généralement de personnes qui n'ont pas envie de faire des efforts dans mon entourage, de ça sert à rien que je fasse pas ça parce que de toute façon c'est déjà trop tard. Donc bon, c'est un peu l'argument facile, mais pour moi pour rayonner ça fonctionne mieux et ça peut avoir plus d'impact en le faisant de manière positive. Je ne sais pas si le rabâcher en permanence le négatif fait que les gens vont vouloir agir, parce que généralement, si on regarde les faits, si on regarde que les chiffres et tout, le négatif, il est vraiment très présent. Et oui, on est un peu mal barré pour le futur, mais il y a quand même plein de choses à faire, qu'on peut faire, et il faut motiver les gens et pas les désespérer. Donc c'est un peu moi ce que je recherche, et je vois beaucoup, mais il y a aussi beaucoup dans la communication, dans je vois un peu, je sais pas, sur LinkedIn ou même dans d'autres podcasts, etc. Il y en a beaucoup qui, à chaque fois qu'ils vont exposer un chiffre négatif, vont mettre en avant des nouvelles positives et des solutions. En fait, c'est à chaque fois, pour moi, c'est comme ça que ça marche. C'est si tu exposes une situation qui n'est pas bonne, tu trouves une solution, voire si tu exposes un chiffre négatif, tu exposes trois chiffres positifs pour montrer qu'il y a quelque chose à faire, quoi, pour contrebalancer un peu les nouvelles. Mais donc, oui, moi, je suis pour un peu ce combat par la pensée positive.
Et est-ce que tu penses que c'est une posture qui est facile à adopter ? Parce que peut-être que toi, tu as l'air de dire que ça vient peut-être un peu naturellement parce que tu es un peu naturellement comme ça. Mais est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui peuvent aider à avoir cette posture positive pour être dans cette dynamique-là ?
Je sais pas ce qui pourrait aider, à part peut-être justement ce dont je te parlais, de exposer à chaque fois et penser aux solutions, à ce qui peut être changé, et réaliser aussi que la moindre chose qu'on fait, elle a de l'impact, et elle a de l'impact positif, que ce soit le moindre petit effort. Et donc je suis un peu dans cette idée qu'il faut toujours prendre conscience et accepter le fait qu'on n'est pas parfait, qu'on ne peut pas être parfait, notamment dans tout ce qu'on fait en type d'engagement, et que c'est pas en s'auto-blâmant qu'on va changer les choses, mais plus en se disant, de mon côté, à mon échelle, je fais le maximum. Et je continue à faire le maximum, et j'essaye d'emporter des gens avec moi à faire le maximum. Et ensuite, bon, forcément, ça s'adapte au type de personnes qu'on a autour. Donc peut-être que si tu dois motiver quelqu'un, en étant un peu plus fataliste, tu agis comme ça avec cette personne-là. Si tu vois qu'il y a une personne qui est un peu plus dans un autre état d'esprit, tu utilises d'autres arguments, mais voilà, s'adapter un peu à son audience et continuer, surtout.
Oui. Ne pas baisser les bras.
Voilà, ouais.
Et pour continuer, je pense qu'il y a d'autres... On a un peu parlé du fait qu'être entouré, par exemple, nous, ça, forcément, c'est très pépite de dire ça pour nous, qu'être entouré, c'est ultra important. La force du collectif, c'est ça aussi qui peut donner de l'énergie pour aller plus loin. Et puis c'est vrai que nous, encore une fois, nous, aux pépites aussi, on a un peu ce truc qui, je pense, a changé beaucoup de choses, moi, dans ma vision des choses, c'est qu'on est très tourné, et fait, comme tu dis, solution. C'est-à-dire, OK, il y a des problématiques, il y a des défis, mais on va les relever, et du coup, la question, c'est comment on les relève, et ça fait du bien, en fait, aussi, de se dire, OK, il y a des problématiques, mais qu'est-ce qu'il y a en face pour justement faire face à ces problématiques ? Et ça te met un peu dans une posture différente, ça te met un peu dans une posture d'action, et ça fait du bien d'être dans cette posture d'action et de faire, être dans le fait de faire pour une cause auquel tu crois. Donc, je rejoins totalement Clément sur ses conseils. Un autre élément que tu as un peu lâché tout à l'heure, sur lequel je voudrais revenir... T'as parlé de séparation vie pro-vie perso, qui est un peu une notion aussi, je trouve, dont on parle pas mal, pour le coup. Parce que c'est pas si simple que ça, et il y a différentes façons de le vivre. Comment, toi, tu vis un peu, justement, de se dire, tout ça, de base, ça part quand même des choses qui t'ont touché personnellement, qui t'ont donné, du coup, envie de t'engager professionnellement. Où est-ce qu'il est l'équilibre pour toi entre tout ça ?
L'équilibre... sort du moment où j'ai du temps pour moi qui n'est pas lié au travail et qui est un temps qui me paraît essentiel. Et c'est vrai, je te rejoins complètement dans ce que tu dis, comme j'ai choisi une voie qui me motive et qui est en accord avec mes valeurs, ça pourrait être tentant de vraiment foncer, se donner à fond, au-delà, on va dire, du temps réglementaire professionnel pour cette cause. Mais en termes, si je réfléchis un peu en termes de productivité et d'efficacité dans mon travail, je sais que j'ai besoin de ces moments de pause et de cet équilibre pour toujours justement incarner et donner le maximum sur mes heures professionnelles et ensuite avoir mon temps perso. Et il y a plein de choses en fait, notamment quand on a envie de se battre un peu pour le climat et d'avoir des actions au quotidien, ou si tu n'as pas beaucoup de temps perso, tu ne peux pas le faire. Et je vais te donner des petits exemples. Quand on a participé avec les pépites au challenge là, Ma Petite Planète.
Alors, en quelques mots, peut-être Ma Petite Planète.
Cette appli, oui, cette application qui te fait relever des défis en équipe, des petits challenges dans tes actions du quotidien pour l'environnement. Mm-hmm. J'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui prenaient du temps. Donc, aller faire ses courses en vrac, fabriquer sa lessive soi-même. Enfin, il y a plein de choses où il faut juste avoir du temps perso. C'est pour ça aussi que garder cet équilibre, il est assez important pour moi aussi pour pouvoir sortir un peu de la ville, aller à l'air, voir, pouvoir avoir un peu d'engagement associatif, bénévole. C'est ultra nécessaire de garder cet équilibre et donc j'y tiens vraiment, même si je travaille dans quelque chose qui me plaît et qui est relié à mes convictions.
Ouais. Donc finalement, enfin, ouais, vie pro, vie perso, c'est vie pro dans le sens où bah, à la fin de ta journée, ton travail c'est fini, tu vas pas regarder tes mails, tu vas pas autre chose, mais ton engagement il continue bien sûr au-delà de tout ça, au-delà de ton travail, et donc du coup il se retrouve quand même dans ton quotidien finalement et dans ta vie perso. Que ce soit dans ces éco-gestes un peu que tu peux avoir au quotidien ou peut-être d'autres engagements, comme tu disais, associatifs ou autres. Même si ceci dit, moi, j'aimerais aussi peut-être apporter un peu de nuance là-dedans. C'est que moi, j'ai déjà parlé avec des personnes justement qui ont un peu ce truc de « Oh, mais je m'engage dans ma vie pro et j'ai l'impression que je ne fais pas assez dans ma vie perso parce que justement, je ne suis pas engagée dans une association en plus ou autre. » Et je pense que ce temps de vie perso... comme on le dit, enfin, il faut pas non plus se culpabiliser par rapport à ça. On n'est pas tout le temps obligé d'être en train de te battre. La vie n'est pas une bataille. Et quand nos vies pro sont engagées, c'est déjà beaucoup de batailles d'une certaine manière. Et donc, du coup, quand tu habites dans ta vie perso, si tu veux faire des choses qui sont totalement autres et tu n'as pas forcément besoin d'aller... si tu le veux, tu peux, mais aussi ne pas se culpabiliser de ne pas le faire. C'est pas tu ne seras pas moins engagé qu'une autre personne parce que tu ne dédies pas 100% de ton temps disponible éveillé à une cause.
Je suis complètement d'accord avec toi. Je te mentionnais ces actions justement liées à l'environnement parce que là, on en parle beaucoup, mais mon temps perso est important pour aller au ciné et à mes cours de salsa.
Ah voilà. Voilà, c'est important le ciné et les cours de salsa aussi.
Tout autant important, oui.
Et du coup, par rapport à cette évolution dans ton parcours depuis 2015, si j'ai bien calculé, tu parlais d'il y a 8 ans, comment est-ce que dans ton rapport aux autres, il y a des choses qui ont changé dans le sens où tu disais au début, il y avait cette incompréhension. Est-ce que cette incompréhension, aujourd'hui, elle est toujours présente? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé par rapport à ça?
Elle est moins présente parce que... le sujet est beaucoup plus sur le devant de la scène. Et j'ai aussi rencontré beaucoup plus de personnes engagées. Comme on en parlait juste avant, mon groupe d'amis proches a aussi un peu changé de vision sur le sujet. Donc, dans ma vie quotidienne, elle est beaucoup moins présente.
Trop bien. Et du coup, aujourd'hui, dans ton travail, pour retourner un peu à ton engagement actuel, ton plus gros engagement actuel, on va dire, qu'est-ce que tu kiffes dans ce que tu fais ?
Eh bien, j'adore l'idée d'apporter une petite touche au changement dans les villes. Donc, quand je dis changement dans les villes... comme on propose un service de mobilité décarboné, on vient accompagner cette transition, on vient donc enlever du bruit dans les villes parce que donc, nos scooters électriques ne font pas de bruit, on vient enlever du CO2 dans les villes. Donc voilà, j'aime beaucoup cette idée de à chaque fois qu'on a un utilisateur de plus qui est convaincu de laisser sa voiture à la maison ou de ne pas acheter de scooter thermique, en passant à notre solution, je me dis qu'on a fait quelque chose d'utile.
Ouais, ça fait du bien.
Donc vraiment, c'est hyper motivant, ouais.
Et pourquoi tu as choisi le secteur de la mobilité ? Est-ce que c'est une volonté d'aller dans le secteur de la mobilité ? Est-ce que c'est des enjeux qui t'intéressaient ?
La mobilité en soi, c'était pas mon critère de choix, c'était plus l'impact local qui m'intéressait. Parce que j'ai toujours, depuis Sciences Po, j'aime beaucoup moi le niveau et même la gouvernance, la démocratie locale, donc à l'échelle des villes. J'y crois beaucoup, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui font que quand son environnement immédiat, donc quand tu sors de chez toi, c'est ça un peu qui évolue, ça aide à te faire évoluer toi, et quand t'as quelque chose de proximité comme ça, je trouve que ça fait... les choses peuvent avancer parfois plus vite à ce niveau-là. Donc voilà, je cherchais quelque chose qui soit lié à la ville et au développement durable. Et quand j'ai trouvé, quand j'ai fait la connaissance de Yego, c'était un hasard hein, sur LinkedIn, le match s'est tout de suite fait. Et voilà, et maintenant je suis très content d'être expert de la mobilité et des villes décarbonées.
Trop bien. Et qu'est-ce que ça génère chez toi de porter ce projet finalement ?
C'est très motivant. Et ça donne envie de convaincre, en fait, les gens. Nous, on essaie de convaincre surtout, par exemple, les administrations d'accepter d'avoir une nouvelle solution sur le territoire, parce que c'est toujours des décisions difficiles, puisqu'on ne sait jamais à quoi... Elles ne savent jamais un peu à quoi s'attendre. Il y a beaucoup de villes qui sont un peu traumatisées par l'expérience des trottinettes électriques partagées.
Oui, j'imagine.
Et je les comprends. Hein. Mais voilà, nous, c'est complètement différent. C'est un véhicule homologué, immatriculé, voilà, avec plus de protection, etc. On essaye de s'en différencier, mais c'est un peu dur de faire changer la vision qui s'est implantée depuis justement quelques années, depuis le lancement de des vélos et des trottinettes en quantité dans les villes. Mais voilà, donc de toujours aller chercher le bon argument pour convaincre et essayer de s'installer dans le plus de villes possible, ça motive.
Et est-ce que tu rencontres des freins, toi, dans le travail que tu fais ? Est-ce qu'il y a des freins ou des défis que tu as remarqués particuliers ?
Bien, il y a celui que je te mentionnais à l'instant de justement faire changer cette vision de la mobilité. Comme autre frein, j'en parlais aussi, il y a toujours cette idée d'essayer d'être exemplaire, mais sans forcément y arriver. Donc nous, on prend plein de mesures à chaque fois pour rendre le véhicule de plus en plus... qu'il ait le moins d'impact possible sur l'environnement, donc dans ses phases de production, dans ses phases d'utilisation, dans sa phase de fin de vie. Mais ça prend beaucoup de temps et ça demande beaucoup d'investissement. Et dans des villes et dans des environnements qui bougent très vite, c'est assez difficile. Par exemple, un exemple tout bête, c'est si une ville par exemple, nous donne un contrat de 1 an, ça va être très difficile de faire un gros engagement choc en matière d'environnement. Si au bout d'un an, on peut peut-être partir. Donc c'est pour ça que... Mais bon, après, par exemple, il y a de plus en plus de villes comme Paris qui vont proposer des contrats de 5 ans où là, tu peux vraiment mettre en place des vraies démarches de long terme pour améliorer notre impact. Donc voilà, le frein, c'est un peu ce rythme compliqué qui est d'ailleurs le perpétuel problème du développement durable et de la politique, etc. Cet écart entre long terme et court terme. Et donc voilà, on essaye de... On fait au max. Et pour l'instant, ça a l'air de marcher.
Un beau défi. Ouais. Pour finir, pour les personnes qui nous écoutent... Est-ce que tu pourrais partager des conseils, peut-être que tu peux avoir, ou finalement des apprentissages qui viennent de ton parcours, des choses que ton parcours t'a enseignées, pour que tout le monde puisse un peu affronter le plus sereinement possible tout ce chemin d'engagement et toutes ces questions que toutes les personnes peuvent avoir.
Oui, bien sûr.
J'ai préparé des conseils, attends.
Non, peut-être deux petits conseils. J'ai essayé d'en donner un peu tout au long du podcast, mais ouais. Si je peux en rajouter certains. En tout cas, un qui m'a servi à moi, c'était de suivre son instinct. Et de... Si quelque chose nous semble bien, eh bien de le faire et d'y aller et de pas trop se poser de questions. Et de, si c'est quelque chose qui te motive, qui te convainc, qui est en accord avec tes valeurs, d'y aller et de le faire. Moi, je dirais ça en premier instinct. Moi, j'ai tendance à toujours suivre un peu justement le vent et où la vie me mène. Ouais. Et peut-être autre conseil qui m'a pas mal servi, ne jamais être complètement satisfait du status quo. Donc essayer de toujours remettre en question ce qu'on fait et viser l'amélioration permanente. Je dis pas la croissance permanente, mais l'amélioration. Donc, chercher à avoir le plus d'impact positif possible autour de soi.
Il y a beaucoup ce truc de la recherche d'impact absolu qui fait que les gens font des burn-out militants.
Oh, ouais, ok.
Donc, en fait, c'est totalement ok de se dire, en fait, tu peux toujours apprendre et faire mieux. Parce que tu peux faire mieux, mais aussi se dire... Enfin, tu vois, genre apporter la nuance de attention à toi dans tout ça, quoi. Genre, c'est pas une finalité en soi non plus de faire mieux. Et donc, du coup, les gens se surresponsabilisent. Bah, peut-être juste un truc, peut-être un mot là-dessus.
Mais je dis ça, donc, en gardant toujours à l'esprit que, comme je l'avais mentionné précédemment, on n'est pas parfait, on ne peut pas être parfait, on ne peut pas être exemplaire sur ce genre de sujet. Donc, forcément, on vise et on essaye de faire au mieux, mais on a toujours conscience, on a à l'esprit que on n'est pas parfait et que les choses pourront... je sais pas ce que je voulais dire.
De dire que faire, c'est déjà super bien.
Ouais, voilà.
De faire, c'est déjà ultra bien, qu'il ne faut pas se surresponsabiliser. Il faut prendre soin de soi au milieu de tout ça. Tout en gardant en tête que la vie, c'est plein d'apprentissage, que la formation, c'est au continu et qu'on peut toujours penser et réfléchir à comment aussi on peut faire mieux. Tout en prenant soin de ça, il faut arriver à trouver cet équilibre.
Complètement.
Et ce sera donc le mot de la fin. Merci beaucoup Clément pour le temps que tu m'as accordé et d'être venu échanger au micro des pépites. J'espère que tu auras passé un bon moment. J'espère que toutes les personnes qui m'écoutent auront passé un bon moment. Et voilà.
Bien, merci beaucoup pour cet accueil.
Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver toutes les différentes ressources mentionnées dans la description. Si cet échange vous a plu, vous pouvez vous abonner au podcast des Pépites et aller liker, noter, commenter sur Apple Podcasts. Un prochain épisode arrive bientôt. D'ici là, vous pouvez retrouver les Pépites Vertes sur Instagram et sur LinkedIn. À très vite !